les 39 marches. Chapitre 2. Le laitier part en voyage. Je m'effondrai dans un fauteuil, me sentant vraiment très mal. Cette sensation, qui dura peut-être 5 minutes, fut suivie d'une crise d'angoisse. La vue de cette misérable face blême, au regard fixe, m'était insupportable. Je pris une nappe pour recouvrir le corps, puis, titubant, j'allai au buffet et saisis la bouteille de cognac dont j'avalai plusieurs gorgées. Certes, ce n'était pas la première fois que j'étais confronté à une mort violente. J'avais moi-même tué quelques personnes pendant la guerre du Matabélé. Mais ce crime de sang-froid, et à huis clos, c'était autrement plus choquant. Je finis par me ressaisir et regarder ma montre. Il était 22h30. Par méfiance, je parcourus tout l'appartement. Il n'y avait personne, ni aucune trace de qui que ce soit, mais je fermai et verrouillai tous les volets, les fenêtres et mis la chaîne à la porte. Faisant cela, je reprenais mes esprits et ma faculté de réfléchir. Il me fallut près d'une heure pour clarifier la situation. Je ne m'affolais pas, car, à moins que le criminel ne revienne, j'avais jusqu'à 6h du matin pour faire le point. Pour sûr, j'étais dans de sales draps. Le moindre doute sur la véracité des propos de Scudder était maintenant balayé. Sous cette nappe, la preuve gisait, là. Ces gens, sachant ce qu'ils savaient, l'avaient découvert et avaient trouvé le moyen de s'assurer de son silence de façon définitive. Soit, mais il était resté 4 jours chez moi. Ses ennemis s'imagineraient bien que j'étais dans la confidence. C'était donc à mon tour. Cette nuit même, peut-être, ou demain, ou après-demain, mais de toute façon, mon compte était bon. Je fis alors une autre hypothèse. Je pouvais me rendre à l'instant au bureau de police, ou me coucher et les alerter le lendemain matin, après que Paddock ait découvert le cadavre. Quoi qu'il en soit, que raconterais-je à propos de Scudder? J'avais déjà menti à Paddock à son sujet, et toute l'affaire devenait suspecte. Si j'avouais et racontais à la police tout ce que Scudder m'avait dit, ils éclateraient de rire, tout simplement. J'avais 1000 chances contre 1 de me voir accusé de meurtre, et les preuves étaient suffisantes pour me condamner à mort. Peu de gens me connaissaient en Angleterre. Je n'avais pas un seul vrai camarade susceptible de témoigner en ma faveur. Peut-être ces conspirateurs secrets comptaient-ils là-dessus. Ils étaient capables de tout, et une prison anglaise était un moyen aussi efficace qu'un coup de couteau en plein cœur pour se débarrasser de moi jusqu'au 15 juin. D'ailleurs, si je racontais toute l'histoire, et si par miracle on me croyait, j'aurais fait leur jeu. Carolides resterait chez lui, et il n'en demandait pas davantage. En tout cas, la face cadavérique de Scudder, par sa seule vue, m'avait définitivement rallié à son projet. Certes, il était mort maintenant, mais il m'avait fait confiance et m'avait mis dans la confidence. J'étais prêt, désormais, à poursuivre sa mission. Pour un homme menacé de mort, vous pouvez trouver ridicule cette attitude, mais telle était ma façon de voir. Je ne suis pas plus courageux qu'un autre, mais je déteste voir un brave type se faire descendre. Ce coup de couteau ne mettrait pas terme à l'enquête de Scudder si je reprenais son investigation à mon compte. Au bout d'une ou deux heures passées à réfléchir, ma résolution était prise. D'une façon quelconque, je devais disparaître et me cacher jusqu'à la fin de la première quinzaine de juin. Ensuite, je devrais trouver le moyen de contacter le gouvernement pour leur transmettre ce que Scudder m'avait confié. Je regrettais vivement qu'il ne m'en eût pas dit davantage et de n'avoir pas écouté plus attentivement le peu qu'il m'avait transmis. À part les points essentiels, j'ignorais tout de ce qui se tramait. Mais si j'évitais différents dangers, il y avait de grandes chances pour qu'en final, on ne me crût pas. Je devais courir ce risque et espérer qu'un incident quelconque confirmerait mon histoire aux yeux du gouvernement. Ma première nécessité était de me maintenir en vie pendant 3 semaines encore. Nous étions le 24 mai. Cela signifiait 20 jours à me cacher avant de tenter de joindre les autorités. Je supposais que 2 catégories de gens me rechercheraient. Les ennemis de Scudder pour me supprimer et la police pour m'accuser du meurtre de Scudder. Cela promettait une palpitante poursuite. Mais cette perspective, loin de m'abattre, m'excitait. J'étais resté oisif si longtemps que toute occasion de m'activer me réjouissait. Tant qu'il fallait que je reste en compagnie de ce cadavre et m'en remettre à ma bonne étoile, je ne valais pas un clou. Mais à partir du moment où mon destin m'appartenait, j'allais à la bataille avec entrain. Puis je me demandais si Scudder gardait sur lui quelques documents susceptibles de me renseigner davantage. Le cadavre ne m'inspirait plus autant de répugnance. Son visage était merveilleusement apaisé malgré sa mort violente. Je soulevai la nappe et explorai ses poches. Il n'y avait rien dans la poche poitrine et seulement quelques pièces de monnaie et un porte-cigare dans le gilet. Dans une poche de pantalon, un petit canif et de l'argent, et à l'intérieur de son veston, un vieil étui à cigares en peau de crocodile. Pas la moindre trace du petit calepin noir sur lequel je l'avais vu griffonner si souvent. Je ne doutais pas que son assassin l'ait emporté. Mais en relevant la tête, j'aperçus les tiroirs du secrétaire grand ouverts. Jamais Scudder ne les aurait laissés dans cet état, car c'était le plus soigneux des hommes. Quelqu'un avait cherché quelque chose, peut-être le calepin. Je passai en revue l'appartement et découvris que tout avait été fouillé. L'intérieur des livres, des tiroirs, des placards, des boîtes, jusqu'aux poches de mes vêtements dans le dressing et au buffet de la salle à manger. Nulle part il n'y avait trace de carnet. Il était fort probable que l'assassin l'ait trouvé, mais il n'était pas sur Scudder. Je pris un atlas et consultai une grande carte des îles britanniques. Mon projet était de gagner une région sauvage ou mettre à profit ma science du Veldt, car en ville j'étais comme un rat en cage. L'Écosse me parut le mieux convenir. Ma famille étant écossaise, je pouvais passer partout pour l'Écossais type. Je songeais d'abord à me faire passer pour un touriste allemand, car mon père avait eu des associés allemands, et j'avais appris à parler couramment cette langue. Je m'étais encore perfectionné lors de 3 années de prospection pour le cuivre au Damaraland germanique. Mais je réfléchis qu'il serait moins voyant d'être un Écossais en Écosse, et la police aurait plus de difficultés à me repérer. Je choisis le Galloway, car c'était, autant que je pouvais en juger sur la carte, la région d'Écosse la plus proche, sauvage et inhabitée. Une recherche dans l'indicateur ferroviaire m'apprit qu'un train quittait la gare de St. Pancras à 7h10, ce qui me permettait d'atteindre une station quelconque du Galloway en fin d'après-midi. Tout cela était très bien, mais il m'importait bien plus de savoir comment parvenir à St. Pancras en déjouant la vigilance des camarades de Scudder qui surveillaient l'immeuble. Ce problème me laissa un moment perplexe, mais je finis par trouver l'inspiration. Sur ce, je me mis au lit et dormis près de 2 heures d'un sommeil mouvementé. Je me levai à 4 heures et ouvris les volets de la chambre. La lumière naissante d'un beau matin d'été emplissait le ciel et les moineaux pépillaient déjà. Un grand revirement s'était opéré en moi et je me considérais comme le dernier des imbéciles. J'envisageais de laisser les événements se poursuivre d'eux-mêmes, convaincu que la police anglaise finirait par considérer ma situation de façon rationnelle. Mais en passant de nouveau en revue les faits, je ne trouvais plus aucun argument pour revenir sur ma décision de la veille, et je me décidai enfin, la bouche sèche, à exécuter mon plan. Je n'avais pas vraiment la frousse, mais j'éprouvais une sorte de répugnance à aller au-devant des ennuis, si vous voyez ce que je veux dire. Je dénichai un complet très usagé en tweed, une paire de solides bottines à clous et une chemise de flanelle à col rabattu. Dans mes poches, je tassai une chemise de rechange, une casquette de drap, quelques mouchoirs et une brosse à dents. 2 jours plus tôt, j'avais retiré de la banque une bonne somme en or au cas où Scudder aurait eu besoin d'argent. Je prélevai là-dessus 50 livres en souverain que je glissai dans une ceinture rapportée de Rhodésie. C'était à peu près tout ce dont j'avais besoin. Ensuite, je pris un bain, taillai en brosse ma moustache que je portais longue et retombante. Puis je passai à l'étape suivante. Paddock arrivait habituellement à 7h30 précise et ouvrait lui-même à l'aide de sa clé. Mais vers 7h20, comme je l'avais appris avec mécontentement, dans un grand fracas de bidon, le laitier déposait le lait devant ma porte. J'avais parfois croisé ce laitier en sortant pour une promenade matinale. C'était un jeune homme à peu près de ma taille, à la moustache peu fournie et qui portait une blouse blanche. Je misais tout sur lui. Je pénétrai dans le fumoir. Des rayons de soleil matinal perçaient peu à peu entre les lames des volets. J'y déjeunai d'un whisky soda et de quelques biscuits retirés du buffet. Il allait être 6 heures à ce moment-là. Je mis une pipe dans ma poche, puis j'emplis ma blague à tabac au pot qui se trouvait près de la cheminée. En manipulant le tabac, mes doigts rencontrèrent un corps dur et j'extrayai le petit calepin noir de Scudder. Cela me parut de bon augure. Je soulevai la nappe de dessus le cadavre et m'étonnais encore de voir une telle paix et tant de dignité sur ce visage blafard. « Adieu, mon vieux, lui dis-je. Je ferai tout mon possible pour toi. Où que tu sois, souhaite-moi bonne chance. » Puis je m'installai dans le vestibule pour attendre le laitier. Ce fut là le plus pénible, car j'étais impatient de m'en aller. 6h30 passèrent, puis 6h40, toujours pas de laitier. Cet imbécile avait choisi ce jour entre tous pour être en retard. Peu après 7h15, j'entendis le vacarme des bidons au dehors. J'ouvris la porte d'entrée. Notre homme était là, sifflotant, extrayant mon bidon du groupe qu'il portait. Il sursauta un peu en me voyant. Je lui dis « Entrez donc un instant, j'ai quelque chose à vous dire. » Et je le conduisis dans la salle à manger. « Je suis sûr que vous êtes joueur, » repris-je. « J'ai besoin que vous me rendiez un service. » Prêtez-moi votre casquette et votre blouse pendant une dizaine de minutes, et ce souverain est à vous. » Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de l'or, et son visage s'épanouit en un large sourire. Il demanda « C'est quoi comme jeu ?»«
Un pari, dis-je. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais pour gagner la pièce, il faut que je me transforme en laitier pendant 10 minutes. Tout ce que vous avez à faire est de m'attendre ici. Vous prendrez un peu de retard, mais cela ne fera de tort à personne, et vous gagnez ce souverain. »
« Ça marche, » fit-il joyeusement. « C'est pas moi qu'empêcherai jamais de rigoler. Tenez, chef, v'là mes fringues. »
Je mis sa casquette bleue, sa blouse blanche, emportai les bidons, claquai ma porte et descendis l'escalier en sifflotant. En bas, le portier me cria de la boucler, preuve que mon déguisement était convaincant.
Tout d'abord, je pensais qu'il n'y avait personne dans la rue. Puis j'aperçus un policeman 100 mètres plus bas et un type qui traînassait de l'autre côté du trottoir. Par instinct, je levai les yeux vers la maison d'en face. Et là, à une fenêtre du premier étage, je distinguai une ombre. Le type qui flânait leva la tête en passant, et il me sembla qu'ils échangèrent un signe. Je traversai la rue, sifflotant allègrement, et imitant l'allure désinvolte du laitier. Mais au premier tournant, je pris une rue transversale et la remontai jusqu'au niveau d'un terrain vague. Comme la rue était déserte, je lançai les bidons par-dessus la palissade et envoyai la casquette et la blouse les rejoindre. Je venais à peine de mettre ma casquette de toile qu'un facteur déboucha de l'angle. Je lui dis bonjour, et il me répondit d'un air naturel. À ce moment, 7 heures sonnèrent au clocher de l'église du quartier. Je n'avais plus une seconde à perdre. Sitôt arrivé à Euston Road, je pris mes jambes à mon cou. À l'horloge d'Euston Station, je vis 7h05. À Saint Pancras, je n'eus pas le temps de prendre un billet, d'autant que j'ignorais encore ma destination. Un porteur me désigna le quai où j'arrivais alors que le convoi s'ébranlait. 2 employés de la gare tentèrent de me barrer le passage, mais je les esquivai et sautai en marche dans la dernière voiture. 3 minutes plus tard, tandis que le train filait en vrombissant sur les tunnels du Nord, un contrôleur grincheux m'interpella. Il me délivra un billet pour Newton Stewart, nom qui m'était revenu tout à coup à la mémoire, et il me fit passer du compartiment de première classe où je m'étais installé dans un compartiment de 3e classe fumeur, occupé par un marin et une grosse dame avec une enfant. Il s'éloigna en grommelant, et, m'épongeant le front, je fis remarquer à mes voisins, avec un fort accent écossais, que c'était épuisant de courir après un train. Je m'étais déjà imprégné de mon personnage. D'un ton acariâtre, la femme dit
« Je vous demande un peu, quel malhonnête que ce contrôleur ! Heureusement qu'il y a des Écossais pour le remettre à sa place. C'est qu'il voulait me faire prendre un ticket pour cette moucheronne qui aura 1 an en août. » « Et empêchez ce monsieur de cracher !»
Le marin l'approuva d'un air maussade, et c'est dans une atmosphère de révolte contre l'autorité que j'entrai dans ma nouvelle vie. Et dire que 8 jours plus tôt, je trouvais le monde sinistre.